Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. C'est peu dire que les initiatives protectionnistes de Donald Trump et la rupture de l'accord sur le nucléaire iranien perturbent les Européens qui n'ont pourtant pas besoin du président américain pour s'interroger sur leur devenir. Au Brexit et à la montée générale des populismes de droite ou de gauche, se superpose désormais une crise italienne d'une ampleur inégalée qui pourrait mettre en péril notre monnaie commune, l'euro, et fragiliser la construction européenne patiemment échafaudée depuis 60 ans. Pour tenter de répondre à ces questions quasi existentielles, en tout cas pour un Européen, notre invité a été commissaire européen, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Il est aujourd'hui le président d'honneur de l'Institut Jacques Delors. Bonjour Pascal Lamy.
Bonjour.
Votre dernier livre, écrit en compagnie de Nicole Niesoto, a pour titre « Où va le monde ?». Plus modestement, nous essaierons de comprendre comment l'Union européenne pourrait évoluer dans ce monde quelque peu chamboulé. À mes côtés, pour vous interroger, Clémentine Forestier, rédactrice en chef du site des politiques françaises et européennes contexte.com. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Et Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International, Courrier International, partenaire historique de Carrefour de l'Europe. Bonjour Éric.
Bonjour Daniel, bonjour à tous.
We are experiencing the positive impact of our current economic globalization.
Nous connaissons aujourd'hui les impacts positifs de la globalisation économique, avec des innovations, des créations d'emplois. Mais nous voyons également les abus du capitalisme globalisé et de la disruption digitale qui portent atteinte à la stabilité de nos économies et de nos démocraties. Je crois que faire face à ces défis nécessite le contraire d'une dérégulation massive et d'un nationalisme extrême. Une guerre commerciale n'est pas la réponse adaptée à ces évolutions.
Ainsi parla Emmanuel Macron devant le Congrès américain lors de sa visite aux États-Unis en avril dernier. À l'évidence, le président français n'a pas convaincu Donald Trump de mettre en sourdine ses velléités protectionnistes. D'ailleurs, qui aurait pu le faire? Mais avant de voir les conséquences des décisions du président américain, Pascal Lamy, vous qui connaissez intimement les États-Unis, comprenez-vous la politique, la stratégie de Donald Trump? Y en a-t-il une? Ou agit-il au gré de son aspiration du moment, de tweet en tweet?
Je pense que Donald Trump a une idéologie. Ça fait longtemps qu'il pense que l'Amérique s'est fait rouler par les autres depuis 50 ans, qu'il pense sincèrement que tous ses prédécesseurs étaient des imbéciles et que lui est un génie. Toutes ces choses-là, ce sont des constantes. Et pour le reste...
Ça fait pas une politique.
Non, mais ce sont des croyances qui formatent en partie son comportement. Et pour le reste, ça dépend s'il a passé une bonne nuit ou non, s'il a l'impression qu'il a un juge aux fesses de près ou de loin, si sa famille va bien, s'il a bien digéré ou mal digéré. Et selon le résultat, le lendemain matin, ça donne tel ou tel tweet. Et donc, c'est très difficile à interpréter. Et d'ailleurs, ces mesures protectionnistes auxquelles vous faites allusion à juste titre et qu'il a pris ou qu'il va prendre, c'est du protectionnisme clignotant. C'est-à-dire un jour on fait, le lendemain on fait plus. Un jour on tape sur les Chinois, le lendemain le président chinois l'appelle en lui disant « Eh oh là, t'es en train de me mettre le bazar, bon, on va peut-être s'arranger ». Tout ça est très difficilement lisible, sauf que il est sur la ligne sur laquelle il a été élu par une partie des Américains qui pensent effectivement que l'Amérique est en déclin, et qu'elle doit faire face à un monde qui a envie de plus de déclin d'Amérique, et que ça, c'est pas bon pour l'Amérique, et donc il faut que l'Amérique se redresse, et ce sera comme ça qu'on y arrivera.
Alors évidemment, si les États-Unis souffrent de la globalisation, qu'en est-il des autres? Au niveau des taxations...
Ils en souffrent plus que les autres. Les Américains ont souffert davantage, ils ont encaissé beaucoup des bénéfices de la globalisation, comme tout le monde. Et, comme le disait à juste titre, je crois, Macron, la globalisation, elle a des bons côtés et des mauvais côtés. Elle a des bons côtés parce que elle réduit la pauvreté. Elle a des mauvais côtés parce que elle affecte un certain nombre de tissus économiques et sociaux, et donc des gens qui perdent leur boulot. Et les États-Unis, de ce point de vue, sont plus vulnérables. Là, ce qui distingue les États-Unis dans dans les pays développés, c'est qu'ils ont un système de sécurité sociale plus faible.
Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, nous ne savons pas si, oui ou non, l'acier européen sera taxé à 25%, l'aluminium à 10%. Mais la vraie question est peut-être de savoir, est-ce que les Européens sont unis face à cette offensive américaine ?
Sans aucun doute. Alors, l'expérience l'a montré. On a eu un Conseil européen à Sofia la semaine dernière. Et les Européens sont d'accord si M. Trump prend des mesures commerciales qui sont en infraction avec les règles de l'OMC, et elles le sont, telles qu'il les a décrites, alors les Européens, un, traînent les Américains devant l'OMC, comme d'ailleurs le font les Chinois, et si Donald Trump le fait, les Européens prendront des mesures de rétorsion contre le jus d'orange de Floride, les jeans et les Harley Davidson. C'est un cas connu, on a déjà connu ça en 2002. Ça ne veut pas dire qu'on va dans une guerre commerciale mondiale, ça veut dire que si M. Trump prend des mesures qui ne sont pas conformes aux engagements que les Américains ont pris, alors ils se font tanner. Tout
jusqu'à quand ? Question de Clémentine Forissier, contexte.com.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit risque à voir du côté de Berlin ? On a vu les réactions des ministres, certains qui se sont précipités à Washington quand il y a eu ces premières annonces de Donald Trump. Et là, récemment encore, le ministre de l'économie qui expliquait quand même que la reprise est fragile dans la zone euro et que donc il faudrait faire attention à ne pas avoir de réaction trop forte vis-à-vis des Américains. Est-ce qu'on n'a pas à craindre une division européenne ou une absence de réponse, en tout cas ferme, notamment à cause de l'Allemagne ?
Non, vous avez raison, l'Allemagne a une sensibilité un peu particulière sur ces sujets parce qu'elle est peut-être plus exposée que les autres, notamment en raison de l'importance de ses exportations automobiles, même si M. Trump se gourre complètement quand il dit à la chancelière « Oh, il y a quand même un truc qui va pas, c'est qu'il y a plein de Mercedes à New York et il n'y a pas de Chevrolet à Berlin ». Les raisons pour lesquelles il n'y a pas de Chevrolet à Berlin, c'est tout simplement parce que les voitures américaines ne se vendent pas en Europe. Les Japonais ou les Coréens vendent plein de voitures en Europe. Bon.
Donc, faut quand même une obsession de Donald Trump.
Voilà, faut quand même comprendre qu'il ne comprend pas. Quoi. Et donc c'est difficile d'essayer de comprendre quelqu'un qui ne comprend pas des choses aussi basiques. Bon. Les Allemands ont une sensibilité particulière, c'est vrai, ils sont plus exposés que les autres, mais ils ont rejoint le consensus. J'étais à Berlin ces deux derniers jours, j'ai écouté soigneusement ce qu'a dit la chancelière, ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères allemand, ce qu'a dit le ministre de l'économie allemand dans le forum dans lequel on était, là, qui était un forum de préparation de la réunion du G20 en Argentine. Ils sont sur la ligne. Ils sont pas va-t-en-guerre, mais ils ont rejoint la ligne européenne, même si ils expriment une sensibilité différente. Vous voyez, l'Europe, c'est parfois des compromis entre ceux qui veulent beaucoup, ceux qui veulent moins. Les Allemands savent très bien que, compte tenu de l'importance de leurs exportations dans l'économie allemande et dans l'économie mondiale, le protectionnisme leur fera plus mal qu'aux autres. Et donc, ils n'ont pas intérêt à ce que M. Trump conduise dans cette voie.
Éric Scholl, courrier international.
On voit avec Donald Trump son peu d'appétence pour le cadre multilatéral. On le voit, on sait qu'il a remis en cause déjà plusieurs accords. Est-ce qu'en ce qui concerne le commerce, on pourrait imaginer les États-Unis sortir de cette économie mondialisée, globalisée, et rompre avec les règles de l'OMC ? On sait à quel point il les critique régulièrement.
Il est vrai que sur l'OMC, sur l'Organisation mondiale du commerce, sur l'idée d'un système mondial de règles qui fait en sorte que les échanges commerciaux se fassent dans des conditions relativement justes, Trump donne des signaux complètement contradictoires. Hein, un jour, il tweet que l'OMC est une catastrophe. Le lendemain, il dit « Ah, je vais traîner les Chinois devant le tribunal de l'OMC parce qu'ils trichent. » Et puis le jour d'après, il dit « Ah, mais je bloque la nomination de juge au tribunal de l'OMC parce que finalement, ce tribunal, il me plaît pas. » Donc en trois jours, vous avez trois visions, trois attitudes différentes. Ce qu'il faut, de ce point de vue-là, c'est peut-être pas perdre trop de temps à essayer d'interpréter ce que M. Trump veut, surtout si c'est pas interprétable vraiment, sauf par des spécialistes des sciences du cerveau et de la psychanalyse et de la psychologie. Il faut simplement que les autres membres de l'OMC s'apprêtent effectivement à une situation dans laquelle les Américains ils pas se retireraient juridiquement, mais en tout cas empêcheraient l'OMC de fonctionner. Et il faut que l'OMC fonctionne sans les Américains. Après tout, les Américains, ils sont sortis du protocole de Paris. ça n'a pour l'instant pas provoqué trop de dégâts, parce que c'est pas eux qui décident, finalement, aux États-Unis. Si la Californie décide d'appliquer l'accord de Paris...
Vous parlez du climat.
Sur le climat, eh ben, c'est pas M. Trump qui va pouvoir le contraire. Bon. Et donc, si les Américains sortent de l'OMC, il faut que les autres, non-Américains, arrivent à faire tourner une OMC sans les Américains. Je pense pas que c'est ce qu'ils feront, parce que s'ils faisaient ça, ils perdraient l'assurance anti-protectionniste qu'ils ont souscrit avec les autres à l'OMC. Bon. Et donc, je ne crois pas que c'est vers ça qu'il y a. Par contre, on ne peut pas non plus dire que les Américains, et même M. Trump, a tort sur toute la ligne, quand il dit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de règles du commerce international qui ne vont pas. Quand il dit que la Chine triche, c'est faux. La Chine ne triche pas, parce que quand elle triche, encore une fois, elle se fait taper par les juges de l'OMC quand elle est traînée devant l'OMC. La Chine ne triche pas avec les règles, mais ce sont les règles qui, aujourd'hui, ne sont pas adaptées à un certain nombre de comportements chinois. Je prends un exemple qui sont les subventions. Les règles de l'OMC, qui sont censées encadrer l'utilisation des subventions. Si vous subventionnez votre producteur, vous lui donnez un avantage comparatif que d'autres producteurs n'ont pas. Donc normalement, les subventions devraient être disciplinées, encadrées. Elles ne le sont pas assez. Il y a les mailles du filet à l'OMC qui sont toutes petites, et puis il y a des mailles qui sont plus larges. Eh bien, les Américains, les Chinois, ils nagent au travers des mailles qui sont plus larges.
Avec beaucoup d'habileté.
Avec beaucoup d'habileté, et ce qu'il faut, et encore une fois, de ce point de vue-là, les Américains n'ont pas tort, ce qu'il faut, c'est resserrer les mailles du filet, là où elles sont insuffisantes. Et si la Chine profite de la taille des mailles du filet pour se tailler des positions qui sont, au fond, sur le plan économique, non justifiées,
vous pensez à quel secteur,
alors il faut réformer ces règles. Et c'est là que la question de savoir si Trump veut améliorer ou réformer l'OMC, ce qui fait du sens, ou s'il veut la tuer, ce qui n'en fait pas, et à ce moment-là, c'est aux autres de le faire à sa place, c'est là que cette question reste ouverte.
Ben, on attendra le prochain tweet, et on a compris que vous êtes abonné au tweet de Donald Trump. Alors, il a la volonté d'imposer des droits de douane ou des quotas pour l'acier et l'aluminium, voire les voitures, c'est un premier point. Puis il y a le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien, un accord où, entre autres, les Européens et les Américains ont été parties prenantes, un accord où les États-Unis se retirent unilatéralement, et ils imposent aux Européens de les suivre sous peine de sanctions. Alors, Pascal Lamy, pouvez-vous nous expliquer avec des mots simples, si possible, les conséquences de cette décision américaine unilatérale?
Bon, d'abord, cette affaire iranienne est beaucoup plus grave que tout ce dont nous venons de parler. Tout ce dont on vient de parler, ce sont des affaires d'économie, de business, dans un monde qui est très intégré, et j'ai des doutes sur le fait que Trump, quelle que soit sa volonté, arrivera à désintégrer le monde d'aujourd'hui sur le plan économique. Là, dans l'affaire iranienne, on est sur une fracture politique. C'est la première fois depuis 1956, ça fait très très longtemps quand même, qu'on a une situation mondiale dans laquelle vous avez d'un côté les Américains, et de l'autre côté les Européens, et avec les Européens, les Chinois et les Russes. C'est quand même une situation géopolitique
rare,
très extraordinaire. Et je crois qu'il faut bien avoir la vision historique qui permet d'apprécier à quel point cette affaire est grave sur le plan de la paix, de la sécurité, des principes de l'ordre international. Bon. Nous jouons la carte du deal qui a été conclu avec l'Iran, et dans les termes duquel l'Iran freine son programme nucléaire et prend l'engagement que ça n'aura pas de conséquences militaires, en contrepartie de quoi le reste du monde accepte de réintégrer l'Iran dans l'économie internationale. Monsieur Trump sort de ce truc, nous, pas.
Donc l'Europe est au pied du mur.
Donc l'Europe est au pied du mur, avec d'ailleurs la Chine, la Russie, et les autres membres du Conseil de sécurité. Ce deal avec l'Iran, c'est pas un truc qui a été concocté dans un petit coin comme ça, sans que personne le sache. C'est quelque chose qui a été négocié pendant des années, du temps de l'administration Obama, et qui a été béni, accepté par le Conseil de sécurité de l'ONU.
Et où les Européens se sont terriblement impliqués.
Donc, c'est un problème politique très grave, qui peut avoir des conséquences économiques, parce qu'effectivement, si M. Trump fait ce qu'il a dit, et encore une fois, il fait pas toujours ce qu'il a dit, mais des fois ça arrive, on sait pas très bien non plus, mais s'il fait ce qu'il a dit, il va coller des sanctions économiques contre l'Iran qui vont affecter des entreprises européennes, chinoises, russes. Bon. Les Chinois et les Russes, je dis pas qu'ils s'en moquent, mais d'abord ils sont dans des business qui sont moins sensibles que les nôtres, et puis ensuite ils sont moins intégrés dans l'économie américaine que les entreprises européennes.
Autant dire que pour les Européens, est-ce qu'on accepte ce principe de vassalité à l'égard des États-Unis ? C'est ça la question.
Est-ce qu'on accepte d'appliquer des sanctions américaines qui frapperont des entreprises européennes ? Probablement pas sur le plan juridique, c'est-à-dire que l'Union européenne va réagir en disant. Nous interdisons aux entreprises européennes d'obtempérer aux injonctions américaines.
Mais qu'est-ce que peuvent faire les entreprises ? Elles vont perdre leur business aux États-Unis ?
On y vient. Ça, c'est ce qu'on va faire sur le plan juridique et politique. Il y a des entreprises européennes qui sont très impliquées aux États-Unis qui vont être obligées d'obtempérer parce que sinon, elles perdent leur licence aux États-Unis si vous êtes une banque. Bon. Et il y a des entreprises européennes qui ne sont pas impliquées aux États-Unis et qui, elles, vont continuer. Et ce qu'il faut, c'est que l'Union européenne fasse un maximum pour protéger celles des entreprises européennes qui se font pas coincer par une grosse présence américaine. Il y a une autre question derrière ça, qui reste ouverte, à mon avis, même si le président de la République française a été plutôt, disons, flou sur cette question quand la dernière fois qu'on l'a posée la semaine dernière, c'est est-ce que si nous trouvons infondées des sanctions américaines qui tapent des entreprises européennes, est-ce que nous allons jusqu'à rétorquer et nous sanctionner des entreprises américaines ?
Alors, c'est le fameux blocking status.
Non, le blocking status, c'est la partie juridique et politique que je viens de dire, ça, je suis sûr que les Européens vont le faire. C'est cette loi européenne qui dit vous n'obtempérez pas à des injonctions américaines. Mais comme on l'a vu à l'instant, ça, c'est juridique et c'est politique. Si j'ai un business aux États-Unis, on a beau me l'interdire, si j'ai le choix entre fermer mon business aux États-Unis ou obéir aux sanctions européennes, si je m'appelle, disons, Total, par exemple, pour prendre juste comme ça un exemple comme
Airbus.
Ça. Ou Airbus. Bon, encore que, enfin, dans le cas d'Airbus Boeing, il y a un monopole, donc il faut bien que les Iraniens volent en avion. Enfin, laissons cette question de côté. La vraie question, c'est jusqu'à quel degré d'escalade on va, étant entendu que l'Europe n'est pas non plus du côté de l'Iran contre les Américains, dans une entreprise de déstabilisation de ce qui se passe au Moyen-Orient. Hein, donc il y a un aspect géopolitique là-dedans qui est très important. Nous voulons, nous, Européens, rester dans ce deal, mais c'est pas pour ça qu'on est avec les Iraniens dans leur entreprise.
Alors, on arrive à la fin de la première partie de cette émission. Quelle est la marge de manœuvre, en quelques mots, des Européens dans cette affaire ?
La marge de manœuvre des Européens, c'est la force, c'est la taille de leur économie et de leur marché.
Important.
Nous sommes le plus grand marché du monde au sens volumétrique, c'est-à-dire en multipliant la surface par la profondeur. Nous restons un marché plus profond que les Chinois et plus grand que celui des Américains. C'est notre force, c'est celle-là qu'on doit utiliser. C'est par là que passe la souveraineté européenne par les temps qui courent. On aimerait bien, pour un certain nombre d'entre nous, qu'elle soit plus forte sur le plan diplomatique, qu'elle soit plus forte sur le plan militaire. Pour l'instant, notre puissance, elle est économique, et c'est celle-là qu'il faut utiliser.
Avec des Européens qui restent pour l'instant unis.
Avec des Européens qui sont unis autour de la table du Conseil européen, et qui sont unis dans les opinions quand on regarde les sondages. Et d'ailleurs, si beaucoup de citoyens européens reprochent aujourd'hui quelque chose à l'Europe, c'est de ne pas être assez unis en matière de sécurité et de politique extérieure. Et c'est là qu'il y a une différence entre ce que souhaitent les opinions et ce que les gouvernements et les diplomates. Et les diplomates sont une catégorie qui, à mon avis, est nécessaire, mais pas forcément toujours indispensable, laissent faire à leur chef de gouvernement.
Eh bien, nous allons revenir à toutes ces questions et à bien d'autres dans la deuxième partie de l'émission. Nous allons faire une pause tout de suite sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. C'est peu dire que les initiatives protectionnistes de Donald Trump et la rupture de l'accord sur le nucléaire iranien perturbent les Européens. Nous en avons longuement parlé dans la première partie de l'émission. Mais les manœuvres isolationnistes du président américain ne sont pas les seules à compliquer le devenir de l'Union Européenne, car au Brexit et à la montée générale des populismes de droite ou de gauche se superpose désormais une crise italienne d'une ampleur inégalée qui pourrait mettre en péril notre monnaie commune, l'euro, et fragiliser la construction européenne patiemment échafaudée depuis 60 ans. Pascal Lamy, ex-commissaire européen et ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, il est aujourd'hui le président d'honneur de l'Institut Jacques Delors, il est notre invité et à mes côtés pour l'interroger, Clémentine Forissier, rédactrice en chef du site des politiques européennes et françaises contexte.com et Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International. Pascal Lamy, avant de voir quelles pourraient être les conséquences de la crise italienne sur l'euro et pour l'Union européenne, quelle est votre analyse de la situation en Italie qui a vu un parti anti-système, le mouvement 5 étoiles, et un parti franchement europhobe et d'extrême droite, la Ligue, arriver en tête des élections, qui ont tenté de former un gouvernement, sans succès pour l'instant en tout cas. Et pourquoi, selon vous, on en est arrivé là, en Italie, un pays, rappelons-le, qui a été traditionnellement très européen? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a cloché?
Ce qui a cloché, c'est que une partie de la population italienne est restée très européenne, et souvent plus que les autres. Quand vous regardez ce que les Italiens pensent de l'Europe, il ne faut pas croire, comme ça existe dans d'autres pays, l'attitude des Européens, des Italiens à l'égard de l'Europe est marquée d'abord par de l'euroscepticisme. Les Italiens sont des euro-enthousiastes, et ils en veulent à l'Europe.
Alors ils sont des euro-déçus.
Exactement. Et ils ont de bonnes raisons de l'être. Les Italiens sont des gens qui croient à l'Union européenne, qui croient à l'unité européenne, qui croient au fait que quand on fait les choses ensemble et quand on se procède ensemble, ça marche mieux. Et puis qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que sur les affaires d'immigration, on les a complètement laissés tomber. C'est chez eux qu'un paquet d'immigrants qui veulent traverser la Méditerranée arrive, et on leur dit « Ah ben oui, mais ça c'est votre problème, hein. Comptez-les ». Enregistrez-les, etc.
Et débrouillez-vous.
Et au fond, débrouillez-vous.
À peu de choses près.
Et quels sont les pays frontaliers de l'Italie par lesquels les migrants pensent qu'en allant vers le nord de l'Europe, ça ira mieux? C'est la France, c'est la Suisse, c'est l'Autriche, c'est la Slovénie. En gros, catégorie de pays qui sont pas très très chauds pour accueillir des migrants italiens. Donc, il faut, je crois, bien comprendre cette dimension pour comprendre que dans le vote italien, et notamment en faveur d'un parti d'extrême droite qui est la Ligue, et d'un mouvement 5 étoiles dont on sait pas très bien d'ailleurs s'il est du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de droite, de gauche, anarchiste ou soviétique, on sait pas très bien. C'est vrai que ça a donné ce résultat étrange. Le résultat était étrange. Ce que les résultats a provoqué d'encore plus étrange, c'est cette alliance entre la carpe et le lapin, c'est-à-dire entre un parti d'extrême droite qui veut baisser les impôts et un mouvement populiste, pour employer ce mot, qui à mon avis ne corrèle pas à la réalité, parce que appeler ces mouvements populistes, c'est leur faire le crédit de ce qu'ils prétendent, c'est-à-dire qu'ils représentent vraiment le peuple, je n'en suis pas sûr. Mais bon, cette alliance étrange, comme quoi il fallait à la fois baisser les dépenses publiques, augmenter les dépenses publiques pour le mouvement 5 étoiles, et baisser les impôts pour la Ligue du Nord. Bon, ça ne marche pas.
Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de gouvernement.
On a mis une semaine à s'apercevoir, ce que d'aucuns pourraient trouver un peu long, que augmenter les dépenses et baisser les impôts, ça ne marche pas.
Clémentine Forissier, contexte.com.
Il y a eu une décision du président de la République italienne de refuser la nomination du ministre de l'économie qui était notoirement eurosceptique. Il y a eu des discussions pour savoir si oui ou non c'était constitutionnel de prendre cette décision. Au-delà de l'aspect juridique du sujet, est-ce que politiquement, ce n'était pas risqué de donner l'impression que si vous êtes eurosceptique, vous ne pouvez pas gouverner, et donc finalement d'aller encore plus dans le sens de cette méfiance ou de cette défiance vis-à-vis de l'Europe. Voilà. Est-ce que vis-à-vis de la population italienne, cette décision n'était pas finalement pire que le mal?
Ben, c'est une bonne question, parce que c'est effectivement risqué, et ça peut donner l'impression que la partie de l'opinion italienne, qui n'est pas majoritaire, qui est celle qui veut se donner des libertés avec les règles européennes, et notamment l'administration de la zone euro, ne peut pas s'exprimer. Mais mettez-vous à la place du président italien, il avait le choix entre deux mots. Le premier, c'est effectivement de donner l'impression que ce que les élections avaient donné n'allait pas forcément produire ses effets. De l'autre, c'est de voir son pays exploser sur le plan financier. Faut bien voir que quand vous êtes endetté à hauteur de 130% de votre PNB de dette publique, ce qui est le cas de l'Italie,
évidemment, la marge de manœuvre est étroite.
L'Europe est votre seule protection. Si vous sortez du toit européen qui vous protège des marchés financiers, et encore, le toit, il a quelques fuites, la preuve, c'est que la dette italienne a pris quand même un choc sur les marchés financiers. Si vous sortez du toit européen, vous courez à la banqueroute.
Mais là, on peut aller, on peut aller dans une situation qui sera encore plus terrible s'il y a des élections qui se profilent.
Ça prouve une réalité que nous connaissons pour un certain nombre d'entre nous, pour l'avoir pratiquée, qui est que on est dans une omelette européenne que nous avons battue, fabriquée depuis 50 ans, et que sortir un œuf d'une omelette européenne, c'est une opération extrêmement risquée. La réalité, et d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce qui se passe en Italie devient si important pour nous, je vous garantis que sur votre émission, sur l'Europe, il y a 20 ans, la question de ce qui se passe en Italie et de ses conséquences pour nous Français n'aurait jamais eu l'importance qu'elle a aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que maintenant, nous sommes très fortement intégrés. Nous ne votons pas aux élections italiennes, mais ça va finir par paraître curieux tellement le résultat de ces élections est important pour nous. Donc ça, c'est là qu'il y a une tension, il y a une dichotomie entre le degré d'intégration réelle qui est celui de l'Union européenne aujourd'hui
et la perception qu'on en a.
Et son insuffisant degré d'intégration politique, et je ne parle pas des questions institutionnelles, je parle des mentalités, je parle des symboles. Nous ne sommes pas encore, dans nos esprits, dans nos mentalités, nous ne sommes pas encore au niveau d'appartenance psychologique, émotionnel, affectif, qui est celui de la réalité. Et cette crise italienne le démontre amplement, même si vous avez raison, il y a un risque que s'il y a de nouveaux élections, les partis dits populistes encaissent encore des gains. Reste à savoir si, encore une fois, parce qu'on élit une carpe d'un côté et un lapin de l'autre, la seule solution, c'est que la carpe et le lapin se mettent d'accord. Parce que ça ne marche pas.
En tout cas, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Question d'Éric Scholl.
Pas forcément la même coalition.
Courrier international.
Comment est-ce qu'on peut arriver à concilier cette appartenance à l'Union européenne, à ce qu'elle souhaite, et en même temps la prise en compte de cette demande qui vient des peuples et qui a été exprimée par le corps électoral italien ?
À condition, encore une fois, et on vient d'essayer de le faire brièvement, d'interpréter correctement ce que dit le corps électoral italien. Une partie du corps électoral italien dit « nous on veut plus d'Europe ». On veut une Europe qui soit plus clair sur les questions de solidarité. On veut bien des disciplines, encore que nous, les Italiens, on n'aime pas trop ça, d'ailleurs c'est comme les Français. Nous, au fond, la France est un pays du Sud, de ce point de vue. Nous, on aime bien la solidarité, pas trop les disciplines. Les pays du Nord de l'Europe aiment bien les disciplines et pas trop la solidarité. C'est pour ça, d'ailleurs, que le compromis, inévitablement, il va vers davantage de discipline et davantage
mais
de solidarité.
Pascal l'a mis tout à l'heure dans les raisons qu'il vous avait expliquées, à propos de cet éloignement des Italiens vis-à-vis de l'Europe. Vous avez souligné la question migratoire, très importante. Mais ces éloignements a commencé plus tôt. Il a commencé au moment de la mise en place des politiques d'austérité en 2008-2009.
Oui, enfin, austérité, entre guillemets. Parce que les politiques d'austérité qui amènent au fait que vous êtes endetté à 130% de votre PNB, je n'appelle pas ça de l'austérité. L'austérité, c'est si l'Italie était endettée à 50 ou 60% de son PNB. Bon. Mais l'Italie est endettée aujourd'hui à 130% de son PNB. La réalité, c'est pas l'austérité. La réalité, c'est que l'économie italienne ne marche pas bien. elle n'est pas assez compétitive, pas assez compétitive, les coûts sont trop forts, les modes de redistribution régionale entre le Nord et le Sud marchent mal, la mafia absorbe une partie de ses bénéfices dans le Sud, c'est l'économie italienne qui ne va pas bien, elle n'est pas ajustée au monde d'aujourd'hui. De ce point de vue-là, d'ailleurs, la France,
elle n'est pas la seule,
pendant un certain temps, a, je ne dis pas, été dans la même situation, parce que je pense que la situation économique italienne est plus grave que celle de la situation économique française, même si la situation économique française avait dérivé depuis 30 ou 40 ans, et on essaie maintenant de rattraper, si je puis dire, le temps perdu. Mais alors, c'est un problème de compétitivité de l'économie, c'est pas un problème de règles budgétaires à Bruxelles. Encore une fois, l'euro aujourd'hui protège l'Italie de la banqueroute.
Alors justement, vous nous avez dit à l'instant, Pascal Ami, que lorsque les Italiens votent, on est concerné par le résultat de leur vote, à travers évidemment l'euro. Est-ce que l'euro est en danger avec cette crise italienne et quel est le risque de contagion aujourd'hui?
Oui, l'euro est en danger avec cette crise italienne. Il y a un danger pour l'euro. Je pense qu'il n'est pas considérable à ce stade. Mais il est vrai que nous n'avons pas encore assez réparé et préparé l'euro par rapport à la crise de 2008. Et pour l'avenir, on est en train d'améliorer un certain nombre de faiblesses que la crise de 2008 avait révélées dans la construction de l'euro et que d'ailleurs Delors avait parfaitement identifié à l'époque, hein, quand Delors avait dit on a fait une union économique et monétaire et c'est une union qui est très monétaire et pas très économique. Il l'avait dit au moment de Maastricht, non pas
donc en 1992,
il fallait pas adopter le traité de Maastricht, mais il avait dit attention, il y a des faiblesses dans le système. Ces faiblesses se sont révélées. Un certain nombre d'entre elles sont en train, on est en train de réparer en quelque sorte ce que le bâtiment avait révélé comme faiblesse. Mais évidemment, s'il y a une grosse crise italienne entre temps, ça va compliquer les choses. Et donc, oui, il y a un certain danger.
Clémentine Forestier, contexte.com.
Et donc vous parlez de crise et de risque potentiel pour l'euro. Pourtant, jusqu'à présent, on a l'impression que sur les réformes qu'il faudrait faire justement pour que la zone euro soit plus économique, il y a encore pas mal d'opposition, notamment caractérisée par l'opposition entre la France et l'Allemagne. Comme vous le disiez tout à l'heure, la France qui a une vision peut-être plus de solidarité quand l'Allemagne parle de plus de responsabilité. J'aurais deux questions. D'une part, est-ce que vous pensez que les réformes qui ont été proposées par Emmanuel Macron depuis son élection pour la zone euro peuvent vraiment aider à justement rendre cette zone euro plus économique? Et d'autre part, est-ce que à un moment, et sur quoi est-ce qu'on peut arriver à rapprocher ces deux visions qui s'opposent et qui sont assez fondamentales entre, si on caricature, l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, entre d'un côté certains pays qui disent il est hors de question qu'on paye pour vous et il n'y aura pas de partage du risque, et de l'autre des pays du Sud qui disent on ne peut plus continuer comme ça, voilà, si on veut que cette zone euro fonctionne, il faut qu'on mutualise un peu plus nos économies.
Bon, je crois qu'effectivement Macron fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, c'est-à-dire que il est en train d'essayer de remettre l'économie française sur la route de ce qu'est une économie moderne, compétitive. Il y a un certain nombre de réformes à faire pour ça. Ça correspond assez bien, et même plutôt bien, au software qui est celui de la zone euro. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on vient de sortir la France de la zone de surveillance budgétaire dans laquelle elle était, un peu comme les malades qu'on met selon les étages en fonction de la gravité de leur état. Bon, on est revenu au rez-de-chaussée. Bon, très bien, c'est bon signe, l'économie française va plutôt mieux qu'avant. Ça donne à la France un peu davantage de crédibilité, parce que c'est bien, si vous voulez, d'arriver en tant que Français chez les Allemands en disant non, on voudrait plus de solidarité et un peu de discipline, mais si le un peu de discipline, les Allemands disent eh oh, on a déjà entendu ça pendant 20 ans, vous ne refaites pas le coup, ça ne marche pas.
Sauf qu'aujourd'hui, ce que le président a dit avec la chapelle justement récemment, c'est bon, maintenant on a fait ce qu'il faut, ou on est en train de faire ce qu'il faut. Bien. À vous de bouger.
Absolument.
Et la réponse en face semble pas évidente.
La réponse en face ne semble pas évidente parce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle pour Macron, la seule d'ailleurs, à mon avis, vraiment mauvaise nouvelle pour Macron depuis qu'il a été élu, c'est les élections allemandes. C'est que Mme Merkel, qui était prête à un deal de ce type quand elle avait les mains libres, n'a plus les mains libres, ou a les mains beaucoup moins libres qu'avant, parce que l'extrême droite allemande fait pression sur la droite de l'échiquier politique allemand, qui lui-même fait pression sur Merkel, qui est plutôt centriste. Et l'extrême droite fait pression sur le parti bavarois, qui est le parti frère de la, du parti de Mme Merkel. Et donc, elle a effectivement moins de marge de manœuvre. Et donc, ça prendra plus de temps. Donc, mon sentiment personnel, c'est qu'on y va vers davantage de discipline contre davantage de solidarité. Mais ça va prendre plus de temps. Et probablement, est-ce que au moment des élections européennes en 2019, pour le moment, est-ce que ce paquet-là ne sera pas fini? Mais on revient à cette réalité que c'est les électeurs allemands qui décident d'élire la chancelière, et pas les électeurs français. Voilà, c'est comme ça. Et de ce point de vue, on voit bien que l'Europe est quelque chose qui est encore en confection.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, nous sommes avec Pascal Lamy, ex-commissaire européen, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, il y a ce nuage italien très noir au-dessus de l'Union européenne. Et puis, vous l'avez dit, il y a ce fameux Brexit à la négociation qui piétine. Theresa May a dit dans ses discours qu'elle souhaitait une relation particulière pour le Royaume-Uni qui ne ressemble à aucune de celles dont dispose l'Union européenne. On peut croire qu'on peut imaginer qu'elle ne sait pas trop exactement ce qu'elle veut. En tout cas, plus les négociations avancent, plus les Britanniques semblent se diriger, semble-t-il, vers une participation au marché unique. Comment analysez-vous la situation britannique, le Brexit? Où en sont les Britanniques et savent-ils où ils en sont?
Bon, je dirais pas que c'est un peu comme l'Italie, parce que ce serait excessif, mais c'est le même problème.
Ni comme Trump, mais tout de même.
C'est le même problème d'œuf et d'omelette. Hein, Monsieur Trump veut sortir l'Amérique de l'omelette mondiale, il va avoir du mal. Les Italiens, pour une partie des extrêmes, voudrait sortir l'œuf italien de l'omelette européenne, ça peut pas marcher parce que sinon l'œuf va casser, tout simplement. Eh bien, le Brexit, c'est un petit laboratoire du même genre. On essaie de sortir l'œuf britannique de l'omelette européenne, et tous les jours qui passent nous disent, oulala, un, c'est difficile, deux, c'est coûteux, on sait pas bien faire. Et l'incertitude qui pèse sur ce processus vient de là, et c'est une incertitude qui est essentiellement liée au désaccord qui subsiste entre les Britanniques, entre ceux qui sont pour le Brexit, ceux qui sont contre, et au fond, si vous voulez, le gouvernement britannique n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qu'est en réalité le Brexit, qui est de remettre une frontière entre le Royaume-Uni et l'Europe.
Oui,
est-ce que cette frontière doit être épaisse? Auquel cas, ils sortent vraiment, mais ça coûte cher, à eux, et donc en partie à nous. Ou est-ce que cette frontière doit être une petite frontière, fine, auquel cas, ça coûte pas cher, mais ils sortent pas vraiment. Et ça, ce compromis, pour l'instant, il n'est pas disponible à Londres. Et le risque, c'est que l'horloge tourne, et qu'en mars 2019, ils sortent sans que ce qui se passe après la sortie ait été proprement prévu, et ça, c'est très ennuyeux pour eux, mais si c'est très ennuyeux pour eux, c'est aussi pas mal ennuyeux pour nous.
Alors, Pascal Lamy, il y a ceux qui sont pour le Brexit, ceux qui sont contre, ceux qui sont ni pour ni contre, bien au contraire, et puis il y a ce problème de frontière, une question d'Éric Scholz sur une frontière bien particulière.
Oui, il y a un endroit en Europe où se pose cette question de redéfinir la frontière, c'est l'Irlande, et plus précisément, dans cette Nouvelle Europe sans le Royaume-Uni, où va passer cette frontière en Irlande? Est-ce que si on remet en place une frontière qui a disparu matériellement depuis maintenant 20 ans, depuis l'accord saint du Vendredi Saint, eh bien, est-ce qu'on n'a pas un risque de faire ressurgir les querelles, les tensions du passé?
Vous avez parfaitement raison, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la question de savoir où on met la frontière, c'est-à-dire si on la met entre le nord et le sud de l'Irlande, ou si on la met entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire sur la mer d'Irlande, est une question qui reste ouverte et qui va être de plus en plus cruciale, parce que mon sentiment est que les Irlandais n'accepteront pas une sortie des Britanniques sans que cette question ne soit réglée. Et là, on est à front renversé par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à l'heure, on disait les Européens sont intégrés sur le plan économique et pas assez sur le plan politique. Dans le cas de l'Irlande, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une réalité politique qui a été construite avec l'accord du Vendredi Saint, qui ne tolère pas une division économique. Donc là, c'est l'inverse. C'est la politique telle qu'elle s'est construite, dans les esprits des gens, dans ce que c'est que la paix après cette période terrible qu'ils ont connue avec des terroristes épouvantables. Hein. Moi, je suis assez âgé maintenant pour m'en souvenir. Beaucoup de gens ne s'en souviennent pas parce que ça fait longtemps. Et donc, politiquement, on ne peut pas casser cette unité économique qui a été construite entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud par le fait qu'ils appartenaient tous les deux à l'Union européenne. Et ça, c'est un problème absolument redoutable, parce que derrière, ça redevient une question de paix et de sécurité. C'est pas juste si ça va coûter 5% ou 10%, ou si les boîtes vont devoir se réorganiser, ou s'il y a des emplois qui vont être gagnés, perdus, ou ici, là. Ça, c'est des questions de vie ou de mort. Et là, on est sur des sujets extrêmement sensibles, et je pense que ça fait partie des sujets qui n'ont pas été mis sur la table au moment du vote du Brexit, et qui apparaissent maintenant, malheureusement, d'un certain point de vue.
Pascal Lamy, la France est dans une situation paradoxale en Europe. Elle a élu l'an dernier un président très européen, sur qui il peut vraiment compter en Europe. Et comment pensez-vous que Emmanuel Macron puisse rejouer au niveau européen, lors de ses prochaines élections européennes, c'est dans un an très exactement, ce qu'il a tenté et réussi en France, c'est-à-dire de renverser la table, notamment peut-être au Parlement européen, un En Marche européen, avec qui et pourquoi faire?
Bon, d'abord, sur qui Emmanuel Macron, président français très pro-européen, peut-il compter? Sur l'évolution des opinions publiques européennes.
Mais si elles sont regardez... moins contrastées.
Non. Elles ne sont pas contrastées. Si vous regardez les eurobaromètres, c'est-à-dire les mesures régulières que l'on fait en posant la question, est-ce que vous pensez que l'appartenance à l'Union européenne est bon pour votre pays? Est-ce que vous comptez sur l'Europe pour régler un certain nombre de problèmes que vous avez? Depuis le vote du Brexit, en gros, ça monte. Et ça monte absolument régulièrement. Je ne dis pas que M. Trump ou M. Poutine ou M. Erdogan n'y sont pour rien, mais on a un regain de soutien à l'intégration européenne dans les peuples européens, et c'est vrai dans tous les pays. Et d'ailleurs, il n'y a pas sur le continent un seul pays, quand on pose la question « est-ce qu'il faudrait sortir de l'Union européenne ?», qui dit oui, y compris d'ailleurs des pays d'Europe centrale et orientale comme la Hongrie et la Pologne, avec lesquels par ailleurs on a des problèmes politiques. Pas un de ces pays ne dit « j'ai des problèmes avec Bruxelles, et donc il faudrait sortir ». Donc le cas britannique reste un cas tout à fait exceptionnel. Bon. Donc, il y a un regain de soutien. La question, c'est que qu'est-ce qu'on fait de cette énergie politique qui est disponible, et qui est quand même, à mon avis, un atout qu'on n'avait pas eu depuis 10 ans. Et je pense, il faut poser à Emmanuel Macron et à Christophe Castaner la question de savoir quelles sont les options d'En Marche. Moi, je suis pas censé parler pour En Marche, j'ai toujours ma carte au Parti Socialiste, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis publiquement. Mais je pense que, à la question que vous posez, c'est-à-dire, je crois que Macron a en tête une sorte d'En Marche européen. La question, c'est de savoir si cet En Marche européen, il est là en option avant les élections. C'est-à-dire, il y a une espèce d'En Marche européen avec Ciudadanos en Espagne, avec D66 aux Pays-Bas, avec je ne sais trop quel petit mouvement polonais, etc., qui fait partie de l'offre politique pour
plan
les élections.
A ou plan B, on ne sait pas encore. Ou
alors, on joue ça à français, étant entendu qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'En Marche fera un bon score compte tenu du bazar dans le reste de l'échiquier politique française, et je doute que ça s'arrange d'ici un an, et sur cette base... Une fois qu'on a des élus, on dit, on fait un groupe En Marche, ou on met la main sur un des groupes au Parlement européen, et à ce moment-là, on fait ça après. Donc, est-ce que c'est avant ou après? Je pense que c'est pas tranché, et je pense que, enfin, en tout cas, de leur point de vue, le temps presse et qu'il vaudrait mieux trancher cette hypothèse le plus rapidement possible. Je suis pas sûr qu'on puisse aller jusqu'au bout sans que la question que vous avez posée à juste titre trouve une réponse. Alors, de la part d'En Marche.
Le temps presse, et pour cette émission aussi, on arrive au terme de ce carrefour de l'Europe. Dans votre livre Où va le monde, un livre que vous avez écrit en compagnie de Nicole Niesoto, vous racontez, vous expliquez qu'il manque une narration de l'Europe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un Européen, peut-être un jeune Européen qui doute des bienfaits de l'Europe, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? J'ai envie de lui dire, écoute tes camarades non-européens, demande-leur c'est quoi l'Europe. Et ce qu'ils vont te dire, c'est, y compris les jeunes, c'est l'Europe, c'est un endroit où la vie est meilleure qu'ailleurs dans le monde. C'est ça qu'ils vont dire. Alors évidemment, les Européens, ça, ils ne
savent
pas. C'est
très clair pour les migrants, ils veulent tous venir en Europe.
Les Européens ne le savent pas, ça. C'est normal, d'un certain point de vue. Ils ne connaissent pas assez le monde qui les entoure pour savoir que même s'il y a des tas d'Européens qui sont malheureux, en moyenne, les Européens sont moins malheureux qu'ailleurs dans le monde. Et donc, demande à ton collègue chilien ou sud-africain ou chinois ce qu'il pense de l'Europe, et tu verras pourquoi continuer à travailler pour que cette réalité perdure, c'est-à-dire que l'Europe est un endroit moins malheureux ou plus heureux qu'ailleurs, ça vaut le coup de se battre.
Merci, merci Pascal Lamy d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci à Clémentine Forissier, contexte.com et Eric Scholl, courrier international. Réalisation audio et vidéo, Guillaume Munier. Pour réécouter ou regarder cette émission, tapez Carrefour de l'Europe et RFI sur votre moteur de recherche. Et pourquoi pas le moteur de recherche européen Quant, ou tapez RFI.fr ou encore les applis mobiles de RFI. On reste en contact via Twitter et Facebook. Daniel Desescales, où que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.